Le nôtre, le chat noir de Combourg. La Bretagne et la France tout entière, il faut l'espérer, se préparent à célébrer le cinquantenaire de la mort de Chateaubriand et ses justices. Celui-là vraiment fut un grand homme, et si quelques-uns de ses ouvrages, avant d'entrer dans le temple du classique, traversent ce moment de la période intermédiaire obligatoire du démodé, ces mémoires d'outre-tombe ont ceci de commun avec tous les chefs-d'œuvre, c'est que, accueillis d'abord avec assez froidement, ils n'ont fait que grandir et se maintenir classés parmi les livres qui vivront toujours. Au printemps dernier, presque à pareille époque, j'étais à Combourg, ce fier manoir qui abrita l'enfance de Chateaubriand et dont le souvenir attendri resta toujours dans son cœur à l'état de plaie douloureuse. C'est là qu'il faut lire les premiers chapitres d'Outre-Tombe. Devant ces nobles tours qui n'ont point changé d'aspect, les pages mélancoliques de l'auteur d'Atala semblent encore gagner du relief et de la poésie. Vous souvenez-vous du récit de ces soirées, de ces mornes soirées, dont le frisson hantait encore plus de 30 ans plus tard Chateaubriand, lorsqu'il rêvait dans les palais d'ambassade de Berlin ou de Londres. Le souper fini, la famille venait se grouper autour de la cheminée de la grande salle des gardes qui tenait à la fois le salon et la salle à manger de Combourg. La mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de framboise flammée. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Le jeune René s'asseyait auprès de Lucille, auprès du feu avec sa sœur, et les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Alors le père commençait une promenade qui ne cessait qu'à l'heure du coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche, ou plutôt d'une sorte de manteau bizarre qu'il faisait ressembler à un fantôme. Sa tête, demi-chauve, était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Et lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une bougie qu'on ne voyait plus. On l'entendait alors seulement marcher dans les ténèbres, puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait un peu doucement de l'obscurité comme un spectre. Avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucille et René échangeaient quelques mots à voix basse lorsqu'il était à l'autre bout de la salle. Il le laissait et il se taisait lorsqu'il se rapprochait d'eux. Alors il le disait, il leur disait en passant. De quoi parlez-vous? Saisi de terreur, les enfants ne répondaient pas, et le père continuait sa marche. Le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappée que par le bruit mesuré de ses pas, les soupirs de Madame de Chateaubriand et le murmure du vent. 10 heures sonnait à l'horloge du château. Le sévère vieillard s'arrêtait, Et le même ressort qui avait soulevé le marteau de l'horloge semblait avoir suspendu ses pas. Il tirait sa montre, la réglait, prenait un grand flambeau d'argent surmonté d'une grande bougie et s'avançait vers sa chambre à coucher, située dans l'une des petites tours. Lucile et René se donnaient sur son passage et l'embrassaient en lui souhaitant une bonne nuit. Il penchait vers eux sa tête sèche et creuse, sans répondre, et continuait sa route et se retirait au fond de la tour dont on entendait les portes se refermer sur lui. Alors René conduisait sa sœur et sa mère à leur appartement, et avant qu'il se retirât, elle le faisait regarder sous les lits, dans les cheminées, derrière les portes, visiter les escaliers, les passages des corridors voisins, toutes les traditions du château, voleurs et spectres leur revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on avait rencontré dans le grand escalier de la tour, et sa jambe de bois se promenait quelquefois seule en compagnie d'un chat noir. Ah, ce chat noir, fantôme, quelle terreur il inspirait! René couchait tout seul là-haut, dans le donjon. Ah, ce chat fantôme, quelle terreur n'inspirait-il pas? René couchait seul tout au haut du donjon, dans une partie déserte du château. Son imagination peuplait d'apparitions et de bruits sinistres les galeries et les couloirs de l'antique manoir. Mais son père était inflexible, et au lieu de raisonner ses craintes, il le forçait à les braver. Et lorsqu'il disait à son fils avec un sourire ironique, « Monsieur le chevalier, aurait-il peur? » L'enfant s'en serait allé par bravade coucher avec un mort. L'excellente madame de Chateaubriand se servait d'arguments plus tendres. « Mon enfant, disait-elle, tout arrive avec la permission de Dieu. » Vous n'avez rien à craindre des mauvais esprits tant que vous serez un bon chrétien. N'empêche que lorsqu'il se trouvait seul dans sa cellule, René éprouvait d'étranges sensations. Par son étroite fenêtre vitrée à losange, il apercevait qu'un petit morceau du ciel des chouettes volaient d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et lui, dessinaient sur les rideaux l'ombre mobile de leurs ailes, et quelquefois le vent semblait courir à pas légers dans les galeries, quelquefois il laissait échapper des plaintes, et tout à coup la porte était ébranlée avec violence. Puis ces bruits expiraient et recommençaient encore, et l'enfant, assis sur son lit, guettait dans l'angoisse, terrifié à la pensée d'entendre soudain, dans le couloir, contre sa porte, le rauque miaulement du chat noir, dont la légende de Combourg. Plus tard, quand il devint homme, Il souriait de ses appréhensions imaginatives. La vie lui avait appris que les fantômes sont moins redoutables que les hommes. Et il était persuadé, d'ailleurs, que le chat noir n'avait jamais existé. Eh bien, sur ce dernier point, il se trompait. C'est tout récemment que le hasard est venu confirmer d'un bien étrange façon la réalité, sinon de la légende, du moins du point de départ de cette tradition, aujourd'hui vieille de plus de 4 siècles. Au cours de ces dernières années, j'ai entrepris quelques travaux de réparation du château de Combourg pour percer une porte de communication entre la salle des gardes et la petite tour de l'ouest. Les ouvriers s'attaquaient à l'un de ces murs énormes, épais de 3 mètres, et comme on en rencontre dans les constructions féodales. En plein milieu de cette maçonnerie, ils rencontrèrent une cavité dans laquelle était déposé le squelette entièrement desséché d'un gros chat qui avait été emmuré vivant, attendu que les os blanchis de ses pattes étaient restés étendus dans la position où on les avait liés. Cette singulière découverte établit que bien certainement, à une époque qu'il était impossible de préciser, se passa à Combourg un drame dans lequel le chat a dû jouer son rôle. Et pour le punir, de la méchante bête de quelques maléfices, on l'avait ensevelie vivante dans le mortier d'une muraille. Les gens de la région perdirent peu à peu le souvenir du fait véritable, et le côté légendaire seul a survécu. Et voilà comment, au temps de Chateaubriand, la tradition du chat fantôme subsistait encore à Combourg. Mais la comtesse de Chateaubriand, propriétaire actuelle du château, n'a pas permis que ce témoin inattendu de la véracité des mémoires d'outre-tombe fût jeté à la voirie. Le squelette du chat est déposé dans la bibliothèque du château de Combourg. Et si Chateaubriand, qui n'y a jamais cru sans doute, le voyait là, étendu sous le globe qui le recouvre, il se trouverait vengé des terreurs que le satanique animal lui causait dans son enfance. Et la petite tour de l'ouest, dans le mur de laquelle les ossements furent trouvés, aujourd'hui désensorcelée, a reçu le nom de la tour du chat.